je regarde. L'autre jour, j'ai prêché dans une église et j'avais le col comme ça. Michou faisait des grands signes, j'ai rien compris. Alors, sur la vidéo, j'ai le col comme ça. Alors, je m'aperçois que j'ai les pantalons tout tordus. Enfin bon, les pantalons, ça se voit pas tellement sur la vidéo, donc ça ira. Bonjour, ça va bien? Il fait chaud, hein? Ouh là! Ici, c'est terrible. Bon, eh bien, écoutez, nous allons commencer. Nous allons faire une lecture dans Job, chapitre 14. Versets 1 et 2 et 10. L'homme né de la femme vit peu de jours, rassasié de tourments. Comme une fleur, il germe et se fane. Telle une ombre, il fuit sans s'arrêter. Et verset 10. L'homme qui meurt reste inerte. Quand un humain expire, où donc est-il? Amen. Je vous asseoir, mes frères et sœurs. Il est essentiel pour le salut de nos familles de hâter la construction du temple. Michou et moi, nous sommes allés voir Monsieur le maire et nous avons une grande surprise, c'est que tout notre terrain est constructible. On peut applaudir le Seigneur. Vous voyez, quand Dieu fait les choses, il accélère les choses. Ah, gloire à Dieu! En 1981, il y a un écrivain américain, je ne sais pas si vous connaissez, William Sorayan. Non? Si, il y en a qui connaissent. Et il a dit à la presse, juste avant de mourir, nous savons tous, il avait un cancer généralisé, il était en train de partir. Il a dit, nous savons tous que tous ceux qui sont nés devront mourir un jour, mais moi j'ai vécu toute ma vie en pensant que j'aurais droit à une exception. Et il a terminé en disant, mais maintenant... Quoi? Le maintenant quoi? Quand on est en face de la mort. Mais maintenant quoi? Je me rappelle, il y avait aussi un Français là. Je ne me rappelle plus son nom. C'était un athée qui faisait des conférences pour défendre ses idées et avec ses amis. Et un jour, il était aussi sur son lit de mort. Et il y en a un de ses amis athées qui lui a dit « Accroche-toi !» Il lui a dit « Mais à quoi ?» Ce maintenant quoi est au cœur des questions de l'âme de l'homme, mes frères et sœurs. Et c'est la question à laquelle répond l'évangile de Jésus-Christ à travers le plan rédempteur. La réponse est là. Dans cette vie, ben, nous naissons, nous grandissons, nous apprenons, nous rions, nous pleurons, nous travaillons, nous jouons, nous vivons et puis nous mourons. Et Job, là, il s'est demandé si l'homme... une fois mort, pouvait revivre. Vous lirez le texte en entier. La réponse est un oui catégorique, mes frères et sœurs. Un oui catégorique. Grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur qui nous permet la résurrection. Parce qu'avec la condamnation avec Adam et Ève, c'était fini. Il y a eu un temps où c'était fini. Et puis, grâce à la rédemption, grâce à l'expiation, eh bien maintenant, nous pouvons ressusciter. Alors les uns pour le jugement, la condamnation, puis les autres pour le salut éternel. Ce que Job dit est très réaliste. L'homme naît d'une femme, il vit peu de jours, et puis il est coupé comme une fleur. Une fleur, il a pris une fleur, je crois que ce n'est pas par hasard, il n'a pas parlé d'arbre. Pourtant la Bible nous parle toujours des arbres, en comparant les arbres à des hommes. Et là, non, c'est une fleur. Un arbre, lui, il a de l'espérance. Quand on coupe un arbre, eh ben, il repousse, il produit des rejetons, une fleur. Bon, mes frères et sœurs, le plan de notre Dieu, il concerne la famille. Dans toute la Bible, l'homme est comparé à un arbre. Un arbre qui a des racines, un tronc et des branches. Et puis qui doit porter du fruit. Dans les derniers mots de l'Ancien Testament, on trouve le prophète Malachie qui se sert de cette analogie de l'arbre pour annoncer la deuxième venue du Seigneur. Et en parlant des hautains, en parlant de ceux qui sont les méchants, alors il s'explique, il dit qu'ils seront embrasés comme du chaume. Ouais, c'est pas tellement du chaume. Et que dans les jours qui viendront, ils n'auront ni racines ni rameau, ni branche. Puis Malachie continue et termine son chapitre, ce qui termine l'Ancien Testament, par une promesse qui est très réconfortante. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Hier soir, nous sommes allés à quelques-uns de la communauté voir Noé. Et c'était terrible. C'était terrible. Quand on pense que ça va être pareil, mais pas avec de l'eau, mais avec du feu cette fois. Dans le film, Noé dit, il parle avec son arrière-grand-père, Mathusalem. Et puis Mathusalem dit, il va détruire par le feu. Et puis il dit, non, il va détruire par l'eau. Parce que l'eau nettoie, alors que le feu détruit. Mais là, maintenant, ça sera le feu, c'est-à-dire ça va être détruit, vraiment. Il dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, je vous ai déjà souvent parlé de ce texte. Élie est venu donc, durant notre dispensation, nous l'avons identifié, c'était un homme qui avait l'esprit d'Élie. Il avait la plénitude des dons spirituels, ce qui fait dire à certains qu'il était Dieu. Il n'était pas Dieu, c'était un homme avec l'esprit d'Élie. C'est écrit, on ne peut pas blasphémer en disant que c'était Dieu. Cet homme n'était pas Dieu. C'est un blasphème que de dire cela. Mais il était tellement impressionnant, les miracles qui accompagnaient sa vie. Il manifestait la plénitude des 9 dons spirituels que nous trouvons dans Corinthiens. Et ça, en fait, manifester cette plénitude, c'est ça la vraie immersion dans le Saint-Esprit. Et il nous a donné les clés de la prêtrise, c'est-à-dire le pouvoir d'agir en son nom. Et l'esprit d'Élie continue aujourd'hui d'agir en accomplissant de nos jours la manifestation du scellement, et je vous expliquais ce que c'est, des familles qui sont liées par les ordonnances rétablies. Je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre scellement et lié. J'espère que vous vous souvenez. On lie quelque chose au nom de Jésus sur la terre et c'est tenu pour lier au ciel. Hein? Et puis après, on authentifie par un scellement. On appose un sceau dessus. Par l'observance de l'ordonnance de 1 Corinthiens 15, 29, vous êtes tous au courant de quoi il s'agit, nous sommes en train de nous lier à nos ancêtres. Mais nous ne faisons pas que de lier le cœur des pères, c'est-à-dire des ancêtres, à nous, leurs fils. Nous lions aussi le cœur de nos fils, de nos descendants, de notre famille future, par le lien du mariage éternel. Et cela fait, eh bien, nous scellons le tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis que nous scellons le tout, cela signifie que nous authentifions les liens familiaux père-fils, c'est-à-dire les ancêtres, et fils-père, c'est-à-dire la famille future. Père-fils, c'est les racines, fils-père, c'est les rameaux. Le plan du salut, c'est un plan de famille. Dieu a toujours agi avec des familles. Regardez Adam et Ève, un homme, une femme, et regardez leur généalogie, c'est une famille. Vous regardez ça dans Genèse chapitre 5, versets 1 à 32. C'est la généalogie d'une famille, c'est tous les descendants, c'est important. Et il y a aussi l'imitation de cela, la limitation diabolique de cela, dans Genèse 4, 10, 24. C'est quoi l'imitation diabolique de cela, de la famille? C'est la lignée de Caïn. J'aime bien dans le film de Noé, ils nous font bien comprendre la lignée de Caïn. Très bien comprendre. Je trouve que c'est intéressant. Et puis Dieu a sauvé Noé, justement, et sa famille. Et puis ensuite, Dieu a choisi Abraham et sa famille. Ensuite, Dieu a choisi le roi David et il lui a dit, il ne manquera jamais sur le trône d'Israël un de tes descendants. C'est encore une histoire de famille. Et puis, Jésus est paru. Jésus, descendant de la famille de David. Encore la famille. Et qui sommes-nous? Ben, nous sommes de sa famille, mes frères et sœurs. Nous sommes de sa famille. Dieu est notre... Jésus nous appelle ses frères. C'est une famille. Et qu'est-ce que Jésus est venu chercher sur cette terre? Une épouse, une famille qui est en accord avec l'Esprit de Dieu. Du début à la fin du livre sacré, qu'est-ce qu'on voit? On voit la famille de Dieu et l'autre, mais on voit la famille. C'est important. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, 22-17, qui parle? L'Esprit, c'est-à-dire Dieu, et l'épouse. Et qu'est-ce qu'ils disent? Viens, Seigneur Jésus. Encore une histoire de famille. C'est la famille réunie là, en esprit, qui dit la même chose. C'est une histoire d'amour familial. Et nos familles sont sa famille. Crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset qui était très longtemps pour moi un mystère. Le Seigneur a insisté sur l'ordonnance du baptême pour accomplir le plan du salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Marc 16, on voit que les apôtres ont fait cela. Et ils ont donc baptisé des gens dans l'eau, comme par exemple l'eunuque et d'autres personnes. Vous voyez ça, ils l'ont fait. C'était pas simplement le baptême n'était pas simplement une vue de l'esprit, de l'immersion que nous pouvons avoir dans le corps de Christ, c'est autre chose. Le baptême dans le corps de Christ, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est de l'ordre spirituel. Le baptême d'eau, c'est quelque chose de bien matériel, de réel, que les apôtres ont réellement fait dans l'eau. C'est une nécessité, c'est une obéissance, c'est un signe, c'est une marque visible dans le monde visible. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et lui-même, il s'est fait baptiser pour montrer l'exemple, alors qu'il n'en avait pas besoin. Mais qu'en est-il des personnes décédées qui n'ont pas été baptisées, c'est-à-dire immergées au nom du Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, j'observe que depuis 1977, date de la création de l'Église du Sanctuary, notre communauté, Dieu a rétabli la saine et sainte doctrine, ligne par ligne, précepte par précepte, pour favoriser le lien de famille à partir des racines jusqu'aux branches. Tout cela parce que l'organisation des cieux, mes frères et sœurs, s'est fondée sur la famille. Quand Raphaël m'a emmené au Seigneur, je n'ai pas dit merci Seigneur, bye bye, les huîtres. Je suis resté attaché à mon papa. Jusqu'au bout. Et à ma petite maman Violette. Il y a des liens familiaux. Parce que c'est une organisation fondée sur la famille. Mes frères et sœurs, nous devons être connectés à nos racines et à nos branches. Un tronc tout seul, vous avez vu ce que c'est, on vient de descendre un arbre. Un tronc tout seul. Nous devons être connectés à nos racines et à nos branches, c'est-à-dire à nos pères, à nos mères, et aussi à nos fils, génération future. Oui, mes frères et sœurs, l'idée d'être réunis dans le royaume de Dieu en tant que famille éternelle, je trouve que ça, c'est merveilleux. Je crois que dans toutes les révélations que Dieu m'a données, dans ce qui concerne le rétablissement, prophétisé dans Actes chapitre 3, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de principe qui m'ont donné autant de joie que celui-là. La famille, le salut de nos morts, la mort est vraiment vaincue. On est en train de poser notre pied sur la mort. C'est une révélation qui est grandiose, qui vaut tous les sacrifices. C'est une chose extraordinaire de vivre dans notre époque, alors que la famille est attaquée dans ce monde par les fils de Caïn, vraiment attaquée, ils cherchent à la détruire, à la ridiculiser, alors elle est magnifiée par les fils de Dieu. Elle est mise au plus haut point. Mes frères et sœurs, cette dispensation, c'est vraiment la dernière, et on peut ressentir l'accélération de l'œuvre du salut. L'Évangile est prêché par toute la terre, c'est vrai. Et nous faisons ce qu'il faut, ce que nous pouvons faire, ce que Dieu nous donne de pouvoir faire pour atteindre les perdus. Nous faisons ce qu'il faut pour que ceux qui nous ont précédés sur la terre n'aient plus à attendre. Nous faisons ce qu'ils ne peuvent pas accomplir en tant que leur substitut. Et c'est un miracle de voir de nos yeux l'accélération de l'œuvre du salut à notre époque. afin que le pays, afin que le monde ne soit pas frappé d'interdit. Le Seigneur lui-même a accéléré, écoutez bien, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant aussi, le rôle de la technologie en permettant des recherches informatiques. Dominique, le premier frère de la communauté, le premier qui est rentré en communauté, Dominique et moi, nous partons aux USA dans un mois. Attendez, dans un mois et deux jours. Pour acheter des CD qui contiennent des millions et des millions de noms de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères, et de gens de toutes les nations, de ceux qui nous ont précédés sur terre. Ainsi, nous allons pouvoir accomplir pour eux ce qu'ils ne peuvent pas accomplir eux-mêmes. La condition du salut, c'est croire et soit baptisé. Ils peuvent croire parce que l'Évangile leur est prêché, mais ils ne peuvent pas être baptisés. Nous le faisons par amour pour eux. Et pendant ce temps, la construction du temple va progresser ici. Monsieur le maire va venir voir, je pense d'ici une dizaine de jours. On peut maintenant choisir l'emplacement, prendre celui qu'on avait décidé ou un autre. C'est à nous de décider maintenant devant Dieu et entre frères et sœurs. Et ce temple va être construit grâce à nos efforts, grâce à vos efforts, grâce à vos dons. Et tout ça, ça accomplit la promesse, la dernière prophétie de l'Ancien Testament. L'esprit d'Élie ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Mes frères et sœurs, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Quand je lis Luc 14, 23, c'est de vous dont Jésus parle. Quand je lis Actes 2, 4, c'est de vous dont Jésus parle. Quand je lis Galates 6, 6, c'est de vous que Jésus parle. Quand je lis 1 Corinthiens 15, 29, c'est de vous que l'apôtre Paul parle. Quand je lis Malachie 4, 5, 6, c'est de vous que Malachie parle. Vous êtes dans les Écritures. Notre voyage aux États-Unis avec le frère Dominique, ce n'est pas simplement un voyage d'agrément. Non, c'est un voyage prophétique. C'est un voyage prophétique. Vous n'êtes pas que des frères et sœurs qui vous levez le matin, qui priez ensemble à vos autels, qui allez travailler, qui rentrez tard le soir, qui donnez fidèlement vos offrandes, qui donnez fidèlement votre dîme. Non, vous n'êtes pas que ça. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ceux dont la Bible parle. Vous êtes ceux qui font l'histoire. Ça paraît bien prétentieux. Allez regarder Noé. Allez regarder Noé. Tout petit bonhomme avec sa famille. Mais voilà. Il faisait partie de l'histoire. Méprisé, ridiculisé. Prédicateur de justice, c'est-à-dire prêchant ce qui était juste. Vous êtes de ceux qui font l'histoire. Des millions de personnes vous accueilleront à l'aube de la première résurrection. Des millions de personnes. Tous ceux pour lesquels vous avez accompli les ordonnances dans le temple. Frères et sœurs, parce que maintenant, jusqu'à maintenant, notre baptistère était dans le château. Maintenant, nous le ferons dans le temple. Vous savez qui sera à peu près... Enfin, je ne vous dis pas tout. Vous retrouverez vos familles. Elles vous seront reconnaissantes d'avoir obéi, d'avoir été fidèles, d'avoir suivi votre serviteur, de l'avoir cru, de l'avoir respecté, de l'avoir aidé, de l'avoir soutenu par vos prières, par vos dons financiers. Elles vous seront reconnaissantes, vos familles. Vous êtes ceux de la 11e heure, vous êtes les derniers ouvriers. Alors évidemment, les autres disent, oh là là, pff. Ils viennent au dernier moment. Oui, vous serez étonnés de voir que vos œuvres vous auront suivi. Vous serez très étonnés que beaucoup de ceux qui sont les premiers, les plus grands, les plus merveilleux, ne vous devanceront pas. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien. Et je suis heureux de partir avec Dominique aux USA. Je trouve que c'est un signe. C'est un signe. Premier frère de notre communauté. Nous sommes d'apparence vraiment insignifiante, c'est vrai. Et quand vous regardez Dominique, ce n'est pas John Wayne. C'est un homme simple, gentil, serviable. Et c'est lui que Dieu a choisi pour venir avec moi pour cette chose-là. Nous sommes d'apparence insignifiante, mais les yeux de Dieu nous ont trouvés. Les yeux de Dieu nous ont trouvés et nous avons tous quelque chose à faire dans ce plan. Il nous a choisis. Alors bien sûr, on n'est pas parfait, on sait bien, moi-même je sais bien que je ne suis pas parfait. Mais comme dit l'apôtre Paul, oublions ce qui est en arrière, nous courons vers le but pour avoir le prix de la course. Et nous continuons, et nous continuons. Alors ne vous découragez pas. Vous avez tous de la valeur. Je vous aime, Michou et moi, on vous aime. Vraiment. Et je vous dis merci de m'avoir supporté jusqu'à ce jour. Et je vous en prie, supportez-moi encore. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Avec ce que Dieu nous a donné, avec ce que Dieu nous a donné, là, eh bien, nous sommes simplement sur le seuil de ce que nous pouvons faire. Je me souviens, quand la révélation est venue au sujet de la vie communautaire, en ce jour, en 77, comment c'était, et puis je me souviens comment Dieu nous a conduits jusqu'au 13 juin 1999, vous rendez compte, ça fait déjà 15 ans que nous faisons les baptêmes pour les morts. 15 ans. Ce jour où Alain Mesme m'a baptisé à la place de mon père, Charles-Édouard Genton. Je me rappelle toujours. À cette époque, il y a 15 ans, j'allais dans un endroit de recherche généalogique à Paris et j'allais faire des recherches de mes ancêtres là-bas sur des microfilms. Je me crevais les yeux là-dessus. Et à l'époque, j'avais facilement des migraines. Je sortais de là après des longues heures de recherche sur ces microfilms avec des maux de tête. Une horreur, une horreur. Et aujourd'hui, n'importe où, avec un ordinateur, avec mon iPhone, avec votre iPhone, avec votre ordinateur, vous pouvez faire facilement les recherches familiales dans votre chambre. N'importe quand. Là, il fallait aller de telle heure à telle heure. Etc. Désormais, nos chambres sont des centres de recherche et d'histoire familiale pour ramener nos pères, nos racines, et nos fils, nos branches. Dieu a accéléré tout cela. Jésus a pourvu merveilleusement en accélérant la technologie pour nous aider. Mais pas pour nous aider que nous, mais pensez à ceux qui attendent en prison. Ils sont en prison, la Bible dit qu'ils sont en prison. Ils attendent que nous accomplissions à leur place ce qu'ils ne peuvent pas faire. Une prison, c'est un endroit triste, c'est un endroit resserré, c'est un endroit de condamnation. Il y a eu un jugement, ils ont été mis là. Et ils attendent, l'évangile leur est prêché, mais ils attendent quoi? Ils attendent que nous accomplissions les ordonnances. Pensez-y, nous savons ce que c'est qu'une prison, nous avons vu des films, on n'a encore pas été, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont été seulement en prison. Et tout ça, ça répond à la question de William Sorayan, et maintenant, quoi? Eh bien, nous sommes de ceux qui continuons l'œuvre de Jésus. Il a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Et il est venu et il a dit qu'il était loin pour rendre la liberté à ceux qui sont captifs. Eh bien, nous avons des millions de captifs à qui nous pouvons rendre la liberté. Non pas simplement en tant que tronc, mais en tant que racine. Si chaque membre de la communauté, chaque jeune dans la communauté, s'attache à faire des recherches pour fournir des noms pour les ordonnances du temple. Ils seront bénis, eux et toute l'Église. Ces choses sacrées ont une portée éternelle et dépassent l'entendement. Ce n'est pas avec l'entendement qu'on s'en approche. Avec l'aide du Seigneur, la doctrine est rétablie et Dieu accélère la technologie et nous construisons un temple en vue de tous ces scellements. Alors je suggère, je n'ordonne pas, je ne commande pas, mais je suggère que chaque famille ici pourrait avoir au moins une fois par semaine une réunion arbre généalogique. Demandez à trouver des noms, demandez à chercher des photos. Chacun apporterait des noms de famille, des dates, des photos. Il y en a des photos. Les jeunes pourront s'enthousiasmer en apprenant d'où ils viennent, parce que là, ils vous connaissent vous, ils connaissent le grand-père, la grand-mère, et encore. Mais après, c'était comment avant? Comment s'appelait l'arrière-arrière-grand-mère? Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'il faisait son mari? Quel boulot il faisait? Ça va vous aider à comprendre bien les choses sur votre vie. Parce que tout ça, vous êtes le résultat de ce qu'ils ont été. Ils sont dans vos gènes. Vos gènes, ça vient de là. C'est des liens familiaux. Il y a des bons liens, il y a des moins bons liens. Vous allez comprendre pourquoi vous arrive ceci, vous arrive cela. C'est très intéressant. Je pense que les jeunes pourraient s'enthousiasmer à l'idée d'apprendre ce qu'a été la vie des membres de leur famille, des racines de ceux qui sont sous terre. Encouragez vos fils et vos filles à retourner vers les pères, vers les grands-pères, vers les arrière-grands-pères et plus encore. Pour accomplir Malachie 4, 5, 6 avec eux, en famille, puisque c'est une histoire de famille. Les jeunes, ils ont une connaissance technologique que nous n'avons pas, nous les vieux. Ils savent mieux chercher sur les ordinateurs et tout ça. Ils vont trouver, ils vont vous aider à trouver beaucoup plus facilement. Ils sont beaucoup plus doués, ils sont nés, ils sont tombés dedans quand ils étaient tout petits, tout petits. Et ça devrait être la priorité pour protéger notre destinée divine en famille. Que Dieu inspire cette pensée dans vos cœurs et quand vous irez vous promener dans notre beau parc, au sanctuaire, bien que chaque arbre vous fasse penser que vous êtes un tronc, mais que vous avez des racines, puis que vous avez des branches. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. Parce que souvenez-vous, le temps est court et la cognée est déjà mise aux arbres. Vous savez ce que ça veut dire? Alors, hâtez-vous. Les choses s'accélèrent, le Seigneur accélère toutes choses. Bougez-vous. Faites ce que vous devez faire. Accomplissez la volonté de Dieu, que celle que Dieu nous a confiée. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus, je te prie d'aider mes frères et sœurs à aller de l'avant avec zèle, avec courage et avec détermination, avec discipline aussi, pour faire ton œuvre et accomplir toutes ces merveilles. Seigneur, nous voyons que le monde se pose des questions et ne trouve pas les réponses parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Nous avons posé les mêmes questions, nous avons trouvé les réponses parce que nous lisons la Bible. Et parce que nous lisons la Bible, tu as ouvert devant nos yeux et nos cœurs ce livre qui est scellé pour beaucoup. Je te remercie, mon Dieu, de cela. Et je te prie que nous puissions faire entrer dans l'arche tous ceux de nos familles et bien d'autres encore qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile prêché correctement du temps de leur vivant. Merci Seigneur de permettre que nous soyons l'accomplissement de cette prophétie. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, le cœur des fils à leurs pères, afin que les familles soient réunies, afin que Dieu ne frappe pas, afin que tu ne frappes pas le pays d'interdit. Merci Jésus. Nous voyons la dégradation de toutes choses et nous voulons lutter contre. Nous savons comment faire désormais en prêchant l'Évangile et en faisant ce que tu nous demandes de faire avec ces ordonnances saintes. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Bon, je voudrais parler de l'enseignement de Michel en ce qui concerne le mariage éternel. Donc au début de son enseignement, de tout ce qu'il a dit à ce sujet-là, pour moi c'était voilé, je ne comprenais rien. Je ne voyais pas les choses dans les Écritures et je voyais que des contradictions en fait. Et j'avais tout relevé sur ma tablette iPad et je notais tout au fur et à mesure. Tout ce que je comprenais pas, je notais. Et justement, c'est tombé au moment où j'étais en vacances en février. Et pendant toute cette semaine-là, je cherchais et je trouvais rien. Enfin, je trouvais que des choses qui allaient pas, qui allaient en contradiction. Je disais, mais c'est quand même bizarre. Je comprends pas. Ou soit c'est voilé pour moi, je veux pas le comprendre. Soit, je sais pas. Il y a des choses qui vont pas avec la parole de Dieu. Et puis, j'en ai parlé un petit peu avec ma femme, avec quelques frères. Et puis ensuite Michel m'en a parlé à un moment donné. J'ai lu aussi tous les écrits qu'il nous a passés. Et progressivement, en fait, ça s'est fait vraiment de manière très progressive. Les choses se sont installées en moi. Et maintenant, j'ai une conviction ferme que vraiment c'est un message qui est beau, qui est superbe et qui est vraiment biblique et inspiré. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que Je crois qu'il ne faut pas, déjà, faut pas se décourager quand il y a quelque chose qui arrive, qui pas se braquer, pas se décourager, et puis se dire bon ben voilà, c'est faux ou ça marche pas, etc. Mais continuer, persévérer, prier aussi. Moi, j'ai prié beaucoup en demandant au Seigneur qu'il m'éclaire, qu'il m'ouvre les yeux pour que mon intelligence, pour que je puisse vraiment comprendre. Et maintenant, ma foi est vraiment établie et je trouve que c'est merveilleux. Et donc, avec Sandrine, on va mettre les choses en pratique, parce que c'est vraiment pratique, la foi. Et ça tombe très bien, puisque cette année, c'est nos 20 ans de mariage. Donc, on va célébrer nos 20 ans de mariage le 25 juin avec un mariage éternel. Voilà. Merci à Michel aussi, parce que vraiment, on a un homme de Dieu qui est vraiment inspiré. Et je crois qu'il faut reconnaître aussi la grâce qu'on a. C'est plus qu'une chance, c'est une grâce. On a vraiment quelque chose de spécial. Je remercie le Seigneur de m'avoir placé dans cette lignée. On parlait de lignée, on parlait de tribu, de famille, et c'est vrai que on a ces liens qui sont entre nous, et je pense vraiment que ce sont des liens qui sont éternels, qui sont vraiment ancrés. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il y a vraiment un ordre établi. Il y a un but. On voit pas tout le but, on voit pas tout ce que Dieu va faire avec notre lignée, mais je crois que c'est vraiment fantastique. Et je remercie le Seigneur et Michel pour ça. Voilà.